maintenant 19h ici à Paris, c'est Radio France Internationale que vous écoutez.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
La suite de RFI Soir, les sports, l'éditorial international, ce qu'il y a à lire dans le magazine L'Équipe, mais tout de suite le grand journal avec Adrien Delgrange et à la une, eh bien, le Proche-Orient.
Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous. Israël annonce avoir reçu la liste des 4 otages qui doivent être libérés demain par le Hamas. Nous sommes à Jérusalem. De violents combats dans l'est de la RDC poussent les États-Unis, le Royaume-Uni et la France à appeler leurs ressortissants à quitter Goma. Vladimir Poutine, attentif à Donald Trump, le président russe prêt à parler au nouveau président américain. La nouvelle administration américaine qui met en scène des expulsions de migrants en situation irrégulière. L'actualité également en Serbie où la colère gronde. Des milliers d'étudiants et de lycéens dans les rues de Belgrade aujourd'hui contre le gouvernement. Le dossier de cette édition, l'Indonésie s'apprête à relâcher Serge Atlaoui. Ce Français a été condamné pour trafic de drogue à 19 ans de prison. Il pourrait être de retour en France dans 10 jours. Son avocat est notre invité. Et puis enfin, Rodrigue Petitot, le leader du mouvement contre la vie chère en Martinique, a été jugé. Il a été condamné aujourd'hui à 1 an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Fort-de-France.
Et commençons par nous rendre en Israël.
Conformément à l'accord de cessez-le-feu signé entre Israël et le Hamas a publié dans la journée le nom des 4 otages qui doivent être libérés demain samedi, et ce dans le cadre d'une deuxième série d'échanges contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël. Nous sommes à Jérusalem avec Nicolas Falaise. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Israël a confirmé cet après-midi avoir reçu de la part du Hamas la liste de ces 4 personnes qui vont donc retrouver la liberté demain.
Confirmation israélienne, mais sans donner de détails sur l'identité de ces 4 otages libérables demain, alors que le Hamas, lui, a publié les noms de 4 jeunes femmes qui sont 4 soldates israéliennes enlevées le 7 octobre 2023. Elles s'appellent Karina Araïef, Daniel Gilboa, Naama Levi, Liri Elbag, 4 jeunes femmes qui effectuaient leur service militaire sur la base de Nahaloz, qui jouxte la bande de Gaza. Précisons que l'une d'entre elles, Liri Elbag, est apparue en vie dans une vidéo diffusée par le Hamas début janvier, c'est-à-dire avant l'annonce de l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, accord qui est en vigueur depuis dimanche dernier.
Alors Nicolas Falaise, si tout se déroule comme prévu, demain Israël devra libérer des dizaines de prisonniers palestiniens une fois que les otages auront quitté la bande de Gaza.
Tout à fait, sur le modèle de ce qu'on a pu observer lors du premier échange, 90 Palestiniens, des femmes et des jeunes ont été libérés des prisons israéliennes dans les heures qui ont suivi la libération des 3 ex-otages dimanche dernier. Alors demain, samedi, on ignore à quelle heure aura lieu le nouvel échange. Comme la semaine dernière, les otages libérés doivent être remis au comité international de la Croix-Rouge qui à son tour les remet à l'armée israélienne. Un dernier mot pour rappeler que il reste actuellement 94 otages dans la bande de Gaza, y compris les 4 femmes dont le Hamas a annoncé ce soir la libération prévue demain.
Nicolas Falaise, merci à vous en direct de Jérusalem pour RFI.
Il lancera question dans Afrique Soir à la demi-heure, les combats qui s'intensifient dans l'est de la RDC.
Décision suite à ces combats, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France appellent leurs ressortissants à quitter la ville de Goma. Les affrontements entre l'armée congolaise et ses alliés et le groupe rebelle des M23 soutenu par le Rwanda se sont concentrés sur 2 fronts, à Kibumba au nord de la ville de Goma et puis à Sake à une 20aine de kilomètres à l'ouest. Ces combats intenses ont provoqué le déplacement de plusieurs milliers de personnes ces derniers jours. L'ONU évoque le chiffre de 400 000 déplacés depuis le début du mois de janvier. À Goma, la situation humanitaire est catastrophique. Témoignage de Manjembi Mangundu, il est directeur pays de l'ONG Oxfam.
Nous sommes inquiets, il y a eu des combats dans le Massissi, puis à Minova, maintenant à Sake. Les gens sont constamment déplacés et tous viennent maintenant à Goma. La ville est pleine à craquer, ainsi que les camps de réfugiés. Cet afflux de déplacés a totalement saturé les infrastructures en place. Les gens occupent maintenant des écoles, des centres communautaires, des centres de santé. Ils cherchent tout simplement à s'abriter et la saison des pluies n'aide pas. Certaines personnes sont vraiment en mauvais état. Nous voyons des femmes et des enfants qui ont clairement besoin de nourriture. Certains nous disent qu'ils n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Cette crise humanitaire à Goma est catastrophique. C'est un véritable chaos. Et en plus, tous ceux qui se battent restreignent l'accès humanitaire, ce qui rend les choses très difficiles pour nous. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour négocier des accès grâce à OCHA et faire en sorte que la population puisse continuer à recevoir une aide.
Et puis nous venons d'apprendre que le général Peter Chirimwani, actuel gouverneur militaire de la province de Nord Kivu, est mort des suites de ses blessures. Il a été touché hier alors qu'il s'était déplacé vers la ligne de front à l'ouest de Goma, dans l'est du pays. Blessure sérieuse, prise en charge d'abord à Goma avant qu'il ne soit évacué dans la nuit vers Kinshasa. Des rumeurs sur son état de santé ont circulé une partie de la journée avant cette annonce officielle du porte-parole des forces militaires. Les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales à Kinshasa.
Venons-en à la guerre en Ukraine.
Le président russe Vladimir Poutine tend la main à nouveau à son homologue américain, se disant prêt à une rencontre sans pour autant donner une date à ce stade. Pierre-Olivier, bonsoir.
Bonsoir.
L'Ukraine, elle, rappelle qu'elle ne souhaite pas être mise à l'écart des futures négociations.
Et oui, car depuis ce matin, les présidents russes et américains échangent par déclaration interposée sur une possible rencontre pour régler le conflit en Ukraine. Lors d'une interview à la télévision russe, Vladimir Poutine a choisi de se mettre ouvertement en position de dialogue en allant jusqu'à louer le caractère pragmatique et intelligent de son homologue américain. Le président russe va même plus loin dans le sens du narratif de Donald Trump, estimant que si ce dernier ne s'était pas fait, je cite, voler la victoire en 2020, il n'y aurait probablement pas eu la crise qui a touché l'Ukraine. Une volonté de dialogue clairement affichée donc par le Kremlin et qui semble faire tache d'huile de l'autre côté de l'Atlantique. Ce jeudi toujours, Donald Trump a fait savoir à des journalistes qu'il verrait Vladimir Poutine dès que possible, regrettant que chaque jour où les deux hommes ne se rencontrent pas, des soldats meurent sur le champ de bataille. Alors dans l'attente d'une future négociation, Kiev en revanche craint d'être mise à l'écart. Vladimir Poutine veut parler de l'Ukraine, mais sans l'Ukraine, cela n'aura pas lieu, a mis en garde la présidence ukrainienne.
Et puis dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, ce nombre, 757 corps de soldats ukrainiens tués au combat ont été rendus par la Russie à l'Ukraine. C'est le plus grand rapatriement depuis le début de la guerre, il y a près de 3 ans. Les corps de 757 défenseurs tombés au combat ont été rendus à l'Ukraine, indiquent les autorités ukrainiennes.
Donald Trump a lancé de plein fouet sa politique d'expulsion de migrants criminels illégaux.
Selon les termes de la porte-parole de la Maison-Blanche, qui affirme que 538 d'entre eux ont été arrêtés et des centaines d'autres vont être expulsés prochainement, Nicolas Rocca, des raids des forces spéciales anti-immigration ont eu lieu un peu partout dans le pays.
L'opération d'expulsion de masse la plus importante de l'histoire est en cours, a annoncé Caroline Levitt, porte-parole de la Maison-Blanche. Ces mots désignent les opérations menées par la police anti-immigration, notamment dans de nombreuses villes dites sanctuaires, des bastions démocrates comme Boston, Atlanta ou San Francisco. À Newark, en banlieue de New York, le maire a annoncé une descente effectuée sans mandat. L'édile de Chicago, Brandon Johnson, a lui clairement indiqué que la police locale n'appliquerait pas les ordres de la police fédérale. Sébastien Natrol est journaliste spécialiste de la justice américaine.
C'est ce qu'on peut appeler schématiquement la séparation des pouvoirs verticale, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral, lui, peut agir dans le sens qu'il désire, mais les États fédérés, eux, peuvent aussi aller à l'encontre de cela. Donc, les États fédérés pourraient, eux, tout simplement refuser de prêter main forte à l'État fédéral pour lui faire comprendre que l'objectif qu'il s'est donné, il n'a qu'à l'atteindre lui-même.
Donald Trump a déjà étendu les pouvoirs de sa force fédérale anti-immigration, permettant des arrestations dans des lieux sensibles comme les églises ou les écoles. Une note du département de la sécurité intérieure, rendue publique par le New York Times, suggère que l'administration Trump ne cible pas seulement ce qu'elle appelle des criminels clandestins. Elle invite la police anti-immigration à s'intéresser aux cas de migrants bénéficiant d'un titre de séjour temporaire ou bien dans l'attente d'une décision de justice.
Aujourd'hui, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Belgrade contre la corruption.
Et dans l'espoir d'accentuer la pression contre le gouvernement d'Alexander Vučić, après des semaines de blocage des universités et de nombreuses manifestations, le mouvement tente désormais de mobiliser l'ensemble de la population pour pousser le gouvernement à la démission. Correspondance de Laurent Rouy.
De nombreux commerces étaient fermés ou vides de clients suite à l'appel des étudiants contre la corruption, à une journée de grève générale. Le mouvement a été particulièrement suivi dans l'enseignement, la culture, par les avocats, mais aussi par de petits groupes de fonctionnaires de certains hôpitaux, de l'opérateur électrique serbe, des tribunaux ou des employés des mines de charbon. Par ailleurs, de nombreux cortèges ont bloqué les principaux quartiers de la capitale Belgrade et de nombreuses villes de province, dont Novi Sad, lieu de l'effondrement du haut vent de la gare le 1er novembre. Cet accident qui avait fait 15 morts avait été le point de départ du mouvement anticorruption en Serbie qui paralyse le pays et réclame la démission du gouvernement. En plus des 15 minutes de silence désormais quotidiennes à 11h52 en hommage aux victimes de Novi Sad, de nombreux cortèges ont convergé notamment vers le siège du gouvernement. Dans l'après-midi, une étudiante a été blessée par une conductrice qui tentait de forcer un barrage provoquant le blocage par les étudiants d'une rentrée d'autoroute. Les manifestants se donnent maintenant rendez-vous lundi pour une action d'ampleur qui est pour l'instant gardée secrète. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Belgrade, où il est pile 19h11. Après avoir passé 19 ans derrière les barreaux en Indonésie, Serge Atlaoui rentre en France.
Ce ressortissant français a été condamné à mort en 2007 pour trafic de drogue dans ce pays d'Asie du Sud-Est, qui a l'une d'ailleurs des législations les plus sévères au monde. Serge Atlaoui, accusé d'être un chimiste dans un laboratoire clandestin de drogue de synthèse, ce qu'il a toujours démenti. Aujourd'hui, âgé de 61 ans, il semble profiter d'une petite fenêtre d'ouverture de la part de l'Indonésie, puisque sur les plus de 90 étrangers détenus dans ces prisons, Jakarta vient de transférer 6 autres étrangers condamnés pour trafic de drogue. Entretien avec Richard Sedillo, l'avocat de Serge Atlaoui. Il est au téléphone avec Carlotta Morteo.
Les autorités indonésiennes avaient fait savoir qu'elles acceptaient le rapatriement d'un certain nombre de détenus, et c'est la raison pour laquelle 5 Australiens ont été renvoyés dans leur pays. C'est la raison pour laquelle Mary Jane, qui avait été, en même temps que Serge, sur une liste de détenus qui devaient être exécutés, a été renvoyée aux Philippines. Mary Jane et Serge avaient été les deux seuls figurants sur cette liste qui finalement n'avaient pas été exécutés. On avait réussi à les sauver. Elle est rentrée aux Philippines et donc on attendait évidemment que Serge soit rapatrié également. Ça va enfin être le cas. Après quelques atermoiements, le transfèrement devrait intervenir au tout début du mois de février.
Comment est-ce que vous expliquez ce changement d'attitude de l'Indonésie vis-à-vis de Serge Atlaoui, mais aussi de ces autres condamnés étrangers que vous mentionnez ?
Ça, c'est une très bonne question. Il semblerait tout de même que la pression internationale, peut-être, a pu exercer un certain effet. Dans le cas de Serge, qui est évidemment celui que je connais le mieux, Serge a eu un comportement absolument exemplaire en détention. Pendant toutes ces années, il a fait preuve d'un calme, peut-être pas d'une sérénité, mais il a été d'un courage qui force l'admiration. Et puis, je pense que les autorités indonésiennes se sont un peu penchées sur ce dossier. J'ai toujours fait savoir, et je crois que nous sommes heureux à le penser, enfin tous ceux en tout cas qui ont eu entre les mains l'intégralité du dossier, que Serge est parfaitement innocent. C'est en tout cas la position qui avait été prise par Laurent Fabius lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, qui avait lui-même expliqué qu'il était absolument convaincu de cette innocence. Puis je pense que les autorités indonésiennes ont peut-être pensé qu'à tout le moins il existait un doute sur sa participation à des faits qu'il n'avait jamais organisés.
Serge Atlaoui va être transféré dans une prison française à son arrivée. Est-ce que son retour implique forcément sa libération ?
Le principe, c'est que le pays vers lequel le détenu est transféré doit adapter la peine qui a été prononcée lorsqu'elle n'existe pas dans son propre arsenal judiciaire. Or, évidemment et fort heureusement, la peine de mort n'existe pas en France. Donc il y a en principe et dans un premier temps une adaptation. Et ensuite, une demande de mise en liberté va être formée. On peut également envisager une grâce, des procédures qui vont être envisagées très 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 rapidement après son arrivée en France, évidemment.
Serge Atlaoui qui devrait poser le pied sur le sol français le 4 février prochain, c'était Richard Sedillo, son avocat. En Martinique, Rodrigue Petitot, le leader du mouvement contre la vie chère, est libre ce soir. Après 2 jours d'audience où il était jugé pour violation du domicile du préfet de la Martinique, le tribunal correctionnel l'a condamné à 1 an de prison avec sursis. L'homme doit sortir aujourd'hui avec un aménagement de peine.
De la musique pour conclure ce journal.
Avec des choristes amateurs sur les plus grandes scènes de France. France jusqu'à la fin du mois de mai. Dans les Zéniths, c'est une tournée de très grande envergure puisque 15 000 choristes se sont répartis sur une trentaine de spectacles. Les meilleurs solistes français et des musiciens de renom vont nous plonger, Philippe, dans l'ambiance du patrimoine de la chanson française. C'est un sujet de Marius Lafont.
Ils chantent des standards de la chanson française et ils sont 15 000 choristes amateurs répartis en 27 dates dans toute la France jusqu'en mai. Matteo Hardy, l'organisateur de cette tournée, fait la division.
15 000 voix pour les plus belles chansons françaises. La particularité de ce spectacle, c'est que vous allez retrouver 500 choristes locaux et des chefs de chœur locaux dans chaque ville. Avec ça, vous avez 4 musiciens et 5 chanteurs. Vous avez des chansons de Edith Piaf à Johnny Hallyday en passant par Jean-Jacques Goldman. Et le but vraiment, c'est de mettre en évidence le talent des choristes en fait.
La tournée met en lumière le phénomène culturel et social des chorales en France. Une étude de 2020 réalisée par l'Université de Poitiers indique que 5% de la population pratique régulièrement le chant en groupe avec une préférence pour la chanson française.
Demain, vous croisez votre boulanger et en fait, vous ne le savez pas, mais votre boulanger est choriste. C'est un mouvement au goût du jour avec des concerts assez grandioses.
Les chanteurs ne sont pas rémunérés pour participer au concert des 15 000 voix pour les plus belles chansons françaises. Il faut même s'acquitter de 65 euros, une mesure justifiée par les organisateurs pour éviter les désistements de dernière minute.
Les bienfaits de la chanson grâce à ce sujet. C'est la fin de cette édition internationale. L'actualité continue sur la radio du monde. Passées de 16 minutes à Paris, RFI Soir, la suite, Philippe Le Caplain.
Adrien Delgrange qui revient à 20h pour d'autres informations. Dans l'immédiat, on parle de sport. Sofiane Amazian du football, la 19e journée de Ligue 1 débute aujourd'hui. Auxerre, en quête de sa première victoire cette année, accueille Saint-Étienne.
Et la dernière victoire des Bourguignons, Philippe, en championnat remonte à fin novembre pour être précis, avec pour conséquence une lente et dangereuse glissade vers la zone rouge. Les Verts de leur côté ont récemment changé d'entraîneur et semblent plus incisifs depuis l'arrivée sur leur banc d'Éric Orneland. Une victoire, un nul, et puis une courte défaite face au Paris Saint-Germain, une victoire des Verts, et la zone de relégation s'éloignerait encore un peu plus. Auxerre, AS Saint-Étienne, coup d'envoi dans un peu moins d'une heure et demie. Et puis toujours en Ligue 1, à noter que le défenseur central ivoirien de Monaco est champion d'Afrique en titre, Wilfried Tsingo, blessé contre Aston Villa en Ligue des Champions cette semaine. Au niveau des ischio-jambiers d'une cuisse, sera absent entre 3 et 5 semaines, a annoncé ce vendredi son entraîneur à 18h. C'était en conférence de presse.
Toujours en football, la fédération belge qui nomme un nouveau sélectionneur pour son équipe masculine.
Et il est français. Rudy Garcia, ancien entraîneur de Lille, de l'OM ou encore de l'AS Rome en Italie, va pour la première fois à 60 ans prendre en main une sélection classée première au classement FIFA entre octobre 2018 et mars 2022, mais sans perte de vitesse ces dernières années, les Diables Rouges sont à la recherche d'un second souffle et le potentiel est là, selon Rudy Garcia.
Il y a eu une génération qu'on a appelée la génération dorée qui pour moi aurait été capable de gagner un euro ou une coupe du monde. La génération des Vincent Kompany, des Vermaelen, des Eden Hazard évidemment que je connais bien. Mais aujourd'hui il reste quand même non seulement des joueurs de cette génération-là qu'on va appeler les cadres ou les leaders de cette équipe. Et après il y a un formidable aussi potentiel de jeunes. Ça ressemble un peu à la France maintenant dans le sens où les jeunes joueurs belges sont déjà dans les grands clubs dès qu'ils sont très jeunes. Après c'est important notamment pour une sélection nationale je pense que de jouer régulièrement. Mais on a tout un travail à faire sur ces jeunes-là. Donc j'ai besoin de venir vite maintenant parce que les choses vont arriver vite. Les barrages contre l'Ukraine c'est déjà dans 6 semaines. Donc il y a un gros travail à faire pour se connaître, apprendre et puis aller à l'essentiel, c'est-à-dire gagner les matchs et dans un premier temps ceux du mois de mars.
Et en mars, la Belgique de Rudy Garcia défiera 2 fois l'Ukraine, ce sera en barrage de la Ligue des Nations.
Voilà pour le football. En tennis, c'est désormais connu l'affiche de la finale messieurs de l'Open d'Australie.
Et le premier à avoir composté son billet pour la grande finale, c'est l'Allemand tête de série numéro 2 du tournoi, Alexander Zverev, tombeur de Novak Djokovic au terme d'un match rapidement interrompu par la blessure du Serbe de 37 ans après la perte du premier set 7-6 sifflé à sa sortie. Djokovic a été soutenu par son adversaire du jour. jour, qui lui voue un respect immense.
J'ai énormément de respect pour lui, je l'admire beaucoup, vous savez. Je crois qu'on a joué un très bon premier set. Après, il ne pouvait pas continuer. C'est sûr, j'aurais préféré gagner autrement, mais c'est comme ça. Me voilà en finale. C'est une nouvelle opportunité pour moi de gagner enfin une finale de Grand Chelem. J'ai hâte qu'on soit dimanche. Je crois que j'ai fait ce qu'il fallait pour me retrouver là, en finale. Je peux dire que oui, je suis prêt.
Et en finale, Zverev rencontrera le tenant du titre, l'Italien Yannick Sinner, qui a battu sans aucun souci l'Américain Ben Shelton.
C'est noté, Sofiane Amazian. Venons-en à la une du magazine L'Équipe. Jean-Michel Brochen, rédacteur en chef adjoint. Alors, la couverture est consacrée à un vieux japonais condamné à mort. C'est un ancien sportif, un boxeur, définitivement innocenté aujourd'hui. Il a 88 ans.
Oui, donc il s'appelle Iwao Akamata. C'était un boxeur des années 60, un boxeur professionnel au Japon. Il avait combattu pour 19 fois en 1960, c'est un record dans la boxe professionnelle au Japon. Et en 1966, il a été accusé du quadruple meurtre d'un patron d'une société qui fabriquait du miso dans laquelle il était employé. Et après 15 jours au moins de la police, il a avoué ce meurtre. Ce quadruple meurtre. Et lors de son procès, il a déclaré qu'il était innocent, hein, mais personne n'a jamais cru. Il a été condamné à mort au Japon. Une peine qui, au bout de quelques années, en 1980, a été confirmée par la Cour suprême du Japon. Donc il était dans le couloir de la mort à attendre tous les matins son exécution.
Alors que finalement, il était véritablement innocent.
Alors qu'il était innocent, c'est son histoire qu'on raconte. Il a fini par être innocenté. Donc le milieu sportif japonais, notamment le milieu de la boxe, et le milieu de la boxe un peu international avec quelques champions américains, s'est un peu mobilisé, de même que ses amis. Et finalement, un des jurés du procès de 1968, il y avait trois jurés qui l'avaient condamné à mort, mais en réalité, dans l'intimité du jury, il n'y avait que deux qui avaient choisi de le considérer comme coupable et un qui considérait qu'il était innocent, c'est le plus jeune. Donc cette personne s'est manifestée, elle est sortie de son anonymat obligatoire et ça a permis l'innocenter. Donc il a été libéré en 2014 et après la justice japonaise est très longue et il vient d'être définitivement innocenté il y a quelques semaines.
Sur le ring de la mort, c'est le titre de ce reportage. L'Afrique également à lire dans le magazine L'Équipe avec le rallye Dakar. Alors pas celui qui est en Arabie Saoudite hein, comme chaque début d'année depuis quelques temps. Le Dakar d'origine qui fait l'objet d'un raid, un périple Mauritanie-Sénégal et vous avez accompagné son plus grand champion.
Oui, donc Stéphane Peter-Hansel qui a 59 ans, a gagné donc 6 fois le Dakar sur une moto. Il l'a gagné 8 fois en auto. Et sur ces 14 victoires, il y en a 10 qui ont été obtenues en Afrique. Donc le Dakar a terminé 25 fois à Dakar. Hein, depuis 2020, il se déroule en Arabie Saoudite. Il a aussi passé entre-temps 11 ans, en Amérique du Sud. Et là, cette année, donc Stéphane Peter-Hansel n'a pas pris part au Rallye Dakar proprement dit. Il a pris part à une course qui s'appelle la Ténéré Spirit Experience, voilà, qui consistait à refaire quelques étapes du Dakar d'origine. Il a pris part à 3 étapes à partir de la Mauritanie. Donc, il a été accueilli un peu en héros à Nouakchott en Mauritanie par le chef des services secrets. Donc, c'est assez rigolo comme reportage parce que il y a toute une sorte de délégation officielle qui est venue l'accueillir. Et puis après, il raconte un peu son expérience dans le désert et ses retrouvailles avec le désert et cet endroit absolument merveilleux pour lui et qu'il raconte avec beaucoup de poésie dans ce reportage.
Du judo également avec un entretien, une interview croisée de deux jeunes judokas français. Ils sont sympathiques et surtout ils sont très ambitieux.
Oui, alors donc c'est Johan Benjamin Gaba, je vais dire leur nom en entier, et Maxime Gaël Ngayap Ambou. Ce sont deux 2001, comme on dit, voilà, dans le jargon. Donc ils ont 23 ans. Il y en a un qui est originaire de Sèvres dans le 92, l'autre dans le 92 aussi de Suresnes. Ils sont amis depuis qu'ils ont 12 ans. Ils ont grandi ensemble à des rythmes un petit peu différents dans le monde du judo, dans la hiérarchie du judo. Et l'année dernière, un petit peu à la surprise générale, donc on les avait mis dans l'équipe de France pour les Jeux Olympiques dans leurs catégories respectives, donc les moins de 73 kilos, les moins de 90 kilos. Ils ont obtenu chacun une médaille en individuel Donc l'argent pour Johan Benjamin, le bronze pour Maxime Gaël. Ils ont surtout aidé l'équipe de France à gagner par équipe.
Ils voient plus loin encore, puisqu'ils veulent, leur mission, disent-ils, c'est prendre le pouvoir dans le judo français. Ils n'ont pas peur de Teddy Riner.
Ils constituent un petit groupe, si vous voulez, qui s'appelle eux-mêmes les Forces Spéciales. Hein, donc ils ont toute une espèce d'ambiance un petit peu rigolote, parce qu'ils ont beaucoup d'humour, ils sont très drôles, ils se chambrent beaucoup, ils ont une grosse ambition, ils voudraient que dans leur groupe de copains là qui s'entraînent ensemble, les 7 places pour 2028 pour les Jeux, ce soit 7 membres de leur groupe, ce qui veut dire qu'il faut éliminer effectivement Teddy Riner. Même si Teddy Riner, c'est leur grand frère. Hein.
Tout autre chose, avec une course très particulière, ça se passe à Paris, très particulière et une course gourmande.
Oui, alors c'est une course à pied, où on s'inscrit et on fait son parcours. Donc les parcours, c'est en fonction un peu des niveaux, il y a 3 parcours possibles. Et à l'arrivée, on est récompensé par une part de flan pâtissier d'une pâtisserie parisienne. Alors bon, c'est une foire très rigolote et très sympa et qui dit aussi quelque chose. Il y a à peu près 12 millions de coureurs en France, hein, 12 millions de gens qui font de la course à pied comme ça le dimanche ou bien de manière un petit peu plus...
Un Français sur 5 donc.
Voilà. Et en revanche, il y en a pas bien loin, on est bien loin de ça dans les clubs de la Fédération Française. Pourtant, les gens aiment courir en groupe. Depuis le Covid, alors c'est un truc qui s'est déclaré après le Covid, les gens aiment faire de la course à pied en groupe. Et il y a des tas de petites... clubs, organisations, groupements comme ça qui se sont un petit peu fédérés. Et à l'image de ce Running Flan Club là, qui aujourd'hui permettent à des gens de courir avec leurs copains, leurs amis. Et souvent c'est des choses assez légères et drôles, mais voilà, c'est aussi une évolution.
Et donc toutes ces histoires, Jean-Michel Brochen, sont à lire dans le magazine L'Équipe.
RFI Soir. Philippe
Caplin. RFI Soir qui vous emmène maintenant en Syrie. Depuis le début de la guerre civile, l'approvisionnement en électricité est tombé à moins de 25% des niveaux d'avant-guerre. Établir le courant est donc l'une des priorités du nouveau gouvernement à Damas. Reportage à Alep de notre envoyé spécial, Manon Chaplin.
La lumière vacille, tremble, puis s'éteint. Sous l'unique ampoule de cette pièce, le salon de la famille Al-Omr, ils sont une quinzaine réunis autour d'un poêle. Fatima, l'aînée, explique 21 heures passées et ici, ils n'ont plus d'électricité. Sur le toit, un panneau solaire est installé. 4 ans d'économie pour se l'acheter. Pas suffisant pour avoir du courant toute la journée.
Étudier et faire la lessive sont les deux choses les plus compliquées. Les coupures de courant sont constantes. Ici, c'est aussi très difficile d'avoir de l'eau car l'électricité n'est pas assez puissante pour faire fonctionner la pompe.
Une fois l'obscurité, chacun sort de sa poche un briquet au bout duquel une petite lumière est intégrée. C'est la seule chose qu'ils ont pour s'éclairer.
Nous l'utilisons uniquement pour que la famille puisse se réunir et se voir avec un éclairage adéquat. Nous sommes habitués, c'est comme ça depuis 2014 ou 2015, depuis le début de la guerre ici.
Dans ce quartier le plus pauvre d'Alep, toutes les familles sont concernées. Karma Jasmati, c'est son nom, a longtemps été le théâtre de violents combats entre les rebelles et l'armée de Bachar al-Assad. La centrale électrique d'Alep, l'une des plus grosses du pays, a été endommagée. Seules 2 turbines sur 5 fonctionnent. Sur les parois, les impacts de shrapnel.
C'est à cause des bombardements. La station a été bombardée.
Emad Abou Ali, le manager, nous fait la visite, raconte. Cette centrale a été tenue par l'État islamique entre 2013 et 2016 avant d'être reprise par le régime.
La station a été complètement vandalisée. Puis saboté par les deux camps. L'État islamique l'a d'abord saboté en partant, puis le régime a recommencé en arrivant. Regardez les transformateurs, regardez l'état de cette station. Tout a été volé, le cuivre, les câbles, tout.
L'objectif du nouveau gouvernement de Damas est de faire passer la production d'électricité de 1200 à 7000 MW. La compagnie nationale d'électricité a annoncé début janvier que le Qatar et la Turquie allaient envoyer 2 navires pour produire de l'électricité. Mahmoud El Ahmad, directeur général de la compagnie dans la région d'Alep.
Notre principal objectif aujourd'hui est que la situation s'améliore afin que l'électricité soit disponible non plus 2 heures mais 8 par jour. La deuxième étape consistera à réhabiliter les centrales électriques afin d'augmenter la quantité d'énergie disponible.
Les sanctions imposées au régime de Bachar al-Assad ont longtemps compliqué l'importation de pétrole. Pour que le courant reparte, le nouveau pouvoir en réclame la levée. D'après Mahmoud El Ahmad, 2 premiers accords sont en cours de négociation.
Le gaz sera acheminé par un gazoduc appelé gazoduc euro-arabe qui traversera la Jordanie. Le carburant sera lui acheminé par voie maritime depuis des pays pétroliers.
Pour l'heure, les plus importants champs pétroliers et gaziers du pays sont situées dans la région autonome kurde échappent au contrôle du pouvoir central. L'électricité vitale pour la reconstruction du pays après 13 années de guerre sera un enjeu décisif des négociations avec les Kurdes dans les prochaines semaines. Manon Chaplin, de retour d'Alep, RFI.
À suivre l'actualité en Afrique.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
À l'heure où les derniers témoins disparaissent, il est plus que jamais nécessaire de raconter avec précision l'histoire de chaque enfant, de chaque femme, de chaque homme assassiné à Auschwitz par les nazis, parce que juifs. 80 ans après, écoutons leur voix, ils nous racontent leur vie pour mémoire.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
À samedi à 14h10, temps universel sur RFI.